un château de rêve pour tous ses enfants. Alors ceux qui travaillent avec lui, ils sont dans le respect, ils me disent, mais tu as prévu au roi d'épouser une nouvelle femme et d'avoir beaucoup d'enfants? Il fait des milliers. Alors il dit, c'est un petit peu compliqué. Il fait, non, il faudrait que tout soit prêt pour la semaine prochaine. Et il dit, et puis j'ai pas l'intention de me remarier, je veux aller dans les rues et je veux aller chercher tous ces enfants qui sont tout seuls, tous ces enfants qui sont abandonnés et qui souffrent. Et je veux prendre soin d'eux, je veux qu'ils sachent que je les aime. Alors tout le monde aime son roi, tout le monde se prépare, tout le monde est un petit peu sceptique. Mais voilà, ils font ce qu'ils lui demandent et ils préparent un château de rêve. La semaine se termine et là, il prend avec lui toutes ses aides et il se rend dans la ville, dans le village. Et il dit, appelez tous les enfants errants, il y en a plein. Et là, ils font oyez, oyez, et ils appellent tous les enfants. Et se réunissent sur la place, effectivement, des milliers d'enfants qui sont sales, qui n'ont pas à manger, qui passent leur temps à faire attention de ne pas se faire agresser, de ne pas se faire enlever, qui souffrent. Et lorsque le roi va pour prendre la parole, il est tellement ému qu'il pleure, et au lieu de leur faire un grand discours, il leur dit seulement qu'il a beaucoup d'amour à leur donner, qu'il les aime déjà, et qu'il aimerait faire d'eux ses enfants, qu'il aimerait faire d'eux leur prince et leur princesse, et qu'un jour, ils hériteront de tout ce qu'il a. Alors là, il y a un grand silence au milieu des enfants. Il y en a qui disent, oula, là, il y a un loup. Non, ça ne marche pas comme ça, cette histoire. Un autre qui dit, ah non, mais attends, tu vois l'idée qu'on soit obligé de se laver les dents et en plus de prendre une douche. Il y a un autre qui rajoute, oh, et on va être obligé d'aller à l'école et faire des maths. Ah non, c'est la cata, c'est pas possible. Ah non, putain, cette histoire, elle est un peu trop belle pour être vraie, ce n'est pas possible. Et puis d'autres disent, mais en fait, on va perdre notre liberté, parce qu'effectivement, on n'a rien à manger, on craint pour notre vie, on a froid, mais on est libre, en fait, dans notre vie. Là, on va être obligé de suivre des règles, on va être obligé de lui obéir. Pas possible. Et là, des centaines d'enfants retournent dans la vie qu'ils connaissent, parce qu'ils préfèrent vivre dans cette vie-là que de découvrir autre chose qu'ils ne connaissent pas. Et sur la place, il va rester 4 enfants. 4 enfants qui, eux, vont dire « Ok, eh ben moi, je t'accompagne. » Alors voilà, pour eux, la vie de château commence. Le roi tient ses promesses et les aime d'un amour incroyable. Mais tout ne se passe pas comme il l'avait imaginé. Le premier, il s'appelait Furtif. Un petit garçon qui ne levait jamais les yeux. Quand il se mettait à table, au lieu de manger les mets succulents du roi, il prenait quelques miettes. Il passait ses journées prostré dans un coin. Il se sentait vraiment très mal. Il ne se sentait pas digne d'être là où il était. Il se disait, mais en fait, je ne suis pas un prince. Moi, je sais qui je suis. Je ne suis pas un prince. Le soir, quand le roi le couchait dans son lit et qu'il lui disait qu'il aimait, il attendait que le roi parte et il se couchait au sol par terre. Il n'a jamais ouvert les cadeaux que son papa lui avait offerts. Et son père avait beau lui parler, lui dire « Je t'aime, mon enfant, regarde-moi », il n'a jamais réussi à lever ses yeux vers le roi. Parce que s'il avait levé ses yeux, il aurait vu l'amour d'un papa dans ses yeux. Et il aurait vu sur son visage combien il faisait toute sa joie. Mais il n'a pas fait. Et à force de dormir par terre, il a attrapé une pneumonie et il est mort. Le deuxième enfant, c'était la seule petite fille du groupe. Elle, tous les serviteurs l'avaient appelée Goulue. C'était une petite princesse extrêmement gentille et toute mignonne avec le roi, mais qui avait des demandes et des attentes infernales. Elle passait son temps à demander des belles tenues, elle n'en avait jamais assez, elle voulait toujours des nouveaux cadeaux, et à chaque fois qu'elle allait auprès du roi, elle l'embrassait et puis elle disait « Mon petit papa chéri, oh comme je t'aime !» Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais m'acheter une nouvelle robe ? Ma chérie, c'est la 3e de cette semaine. Oui, mais papa, si tu m'aimes, tu vas me l'offrir parce qu'elle me fait très envie. Elle n'était jamais satisfaite. Elle avait vraiment compris ce que c'était qu'une princesse. Et puis un jour, elle est venue voir son petit papa et elle lui a dit, écoute papa, j'ai un désir, je voudrais avoir un carrosse rien qu'à moi, tout en or, avec des pierres, des perles. Et comme ça, je mettrai une de mes belles robes, j'irai dans la ville, et je montrerai à tout le monde ce que je suis devenue. Alors là, son papa lui a dit, ma chérie, je t'aime, et je ne peux pas te laisser faire ce genre de choses, c'est pas possible. Tu ne l'auras pas ce carrosse, sinon. Et là, elle se met dans une colère pas possible. Et elle lui dit, de toute façon, avec toi, je te demande, j'ai pas grand-chose, je suis obligée de suivre tes règles. Et elle part dans sa chambre, et là, elle s'empiffre de sucreries à tel point qu'elle explose et qu'elle meurt. Le troisième, son prénom à lui, il avait eu de naissance, et il s'appelait Bâtard. C'est le seul qui, lorsqu'il y avait les milliers d'enfants sur la place, avait osé dire, moi je crois qu'il veut nous offrir quelque chose de bon. Alors la première chose que le roi il a fait, moi je vais te changer ce nom, parce que c'est pas ton nom. Tu vas t'appeler Cœur de Lion. Et Cœur de Lion, il aimait beaucoup son papa, à tel point, qu'il voulait faire sa joie, et qu'il a dit, je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te plaire, tout ce qui est en mon pouvoir pour vraiment faire ta joie. Il se levait à 6h du matin, le gars. Il allait s'entraîner à l'escrime. Il connaissait tous les chevaux de l'écurie. Il s'entraînait. Et les années faisant, il a vraiment acquis une belle réputation et tout le monde l'admirait. C'était le premier à partir en guerre lorsque l'ennemi attaquait. Il allait défendre les frontières. Il était prêt à aller dans des pays inconnus pour la gloire de son père. Il donnait tout ce qu'il avait. Et lorsqu'il rentrait au château, son papa il lui disait « Viens t'asseoir à côté de moi, viens passer un petit temps qu'on discute tous les deux. » Et il lui répondait « Je suis désolée papa, je ne peux pas en fait. Là, je viens d'apprendre qu'il y a des ennemis sur la frontière. Il faut absolument que j'aille défendre le territoire. » Et il disait « Mais viens parler avec moi, viens t'asseoir régulièrement. » Il disait « Je serais tellement heureux de passer du temps avec toi. » Et à chaque fois, Cœur de Lion, il disait « Je suis désolée, j'ai trop de choses à faire. » Mais je te promets qu'un jour, je réussirai à gagner ton affection. Et là, le roi lui a dit, mais je t'aime déjà, mon fils. Je te t'aime déjà, quoi que tu fasses. Et je ne t'aimerai jamais plus que je t'aime parce que tu es mon fils. Mais Cœur de Lion, il n'a pas entendu. Et il a continué à guerroyer et à se battre pour son père. Et puis le quatrième et dernier petit garçon, il s'appelait Fred. Alors lui, Fred, contrairement à Cœur de Lion, il n'avait pas été très gâté par la nature. Il avait des dents de lapin, des oreilles d'éléphant, et sur sa tête, au lieu d'avoir une belle chevelure, il avait des petites touffes de cheveux comme ça. Donc à la base, il n'avait pas tout pour plaire. C'était un enfant qui, à chaque fois qu'il montait sur cheval, trouvait le moyen d'en tomber. Et vous savez, quand il fallait baptiser les nouveaux navires pour partir, il lançait même la bouteille de champagne, elle n'explosait pas. Le pauvre. Mais par contre, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était rester près de son papa. Alors il avait installé un petit tabouret à côté du trône, et puis quand le papa, le roi, menait les affaires, il le regardait avec admiration. Le soir, il faisait des jeux de société, il se promenait dans le jardin, il riait, ils passaient du temps tous les deux. Et puis un jour, le roi est arrivé à la fin de sa vie. Et puis sur son chevet, il y avait Fred qui lui donnait la main. Et le roi, avec sa faible voix, lui a dit « Tu sais, mon chéri, ton frère Cœur de Lion, on parlera de lui dans tous les livres d'histoire, parce qu'il fait de grands exploits. Mais c'est toi, Fred, qui a réjoui mon cœur. » Alors Fred lui a dit « Mais papa, j'ai rien fait d'exceptionnel. » Et il lui a dit « Tu m'as aimé, et c'est tout ce que j'attendais de toi. » Alors moi, j'ai été complètement bouleversée la dernière fois qu'on a lu cette histoire, parce que vous voyez, dans les quatre enfants, c'est quand même poussé à l'extrême les traits. Mais j'ai réussi, hélas, je voudrais être comme Fred, mais je me suis rendu compte que j'étais parfois comme la petite goulue, ou le petit bâtard, ou même parfois c'est arrivé comme furtif. Et j'ai vraiment réalisé que ce que Dieu il attend, qu'on ne le connaisse pas, qu'on apprenne à le connaître, qu'on le connaisse, qu'on retourne s'asseoir avec notre petit tabouret près de lui pour passer du temps avec lui. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'aime, qu'on apprenne à connaître son cœur, qu'on passe du temps avec lui. Et ça passe par une intimité, par des temps seuls. Ce matin, mais quelle bénédiction de participer à la louange. Un seul cœur, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui monte au ciel et ça réjouit vraiment le cœur de Dieu, mais je suis convaincue que ce qui réjouit par-dessus tout le cœur de Dieu, c'est notre louange personnelle. C'est les temps qu'on a avec lui, où personne ne nous voit, mais qu'on lui dit qu'on l'aime, qu'on le loue, quoi qu'il nous arrive. que ça soit facile, que ça soit pas facile, qu'on ait confiance en lui et qu'on lui dise combien on l'aime et combien on ressent sa présence. Alors, dans la Bible, voilà, il y a un exemple d'un homme qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, et c'était David. Alors David, donc je reprends le verset, Actes chapitre 13, verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors David, c'est un homme. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Alors, pourquoi il avait un cœur selon le cœur de Dieu ? Il y aurait énormément de choses à dire, mais moi ce matin, j'en ai retenu que deux. D'abord, David, c'est un homme qui incarne une relation profonde avec Dieu. Pour ceux qui connaissent la Bible, on peut lire les psaumes, on peut pas, et on lit aussi ces histoires dans l'Ancien Testament, qui montrent que la vie de David a été marquée par de la louange, de l'adoration, qu'il a obéi et qu'il a fait le choix de vivre pour Dieu quoi qu'il en coûte, même s'il a fait des bêtises, même si, bah, comme tous, on fait des erreurs. Il avait un cœur qui revenait pour Dieu. Et il a écrit dans un de ses psaumes, au psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et un des autres aspects de la personnalité de David, c'était l'humilité de son cœur. Il avait une telle humilité qui faisait passer le bien de Dieu et des autres avant lui-même. Moi, j'ai pris ma deuxième petite soufflante. Dans mes temps de prière, combien de temps je passe à prier pour mes besoins, ma famille, mes enfants, mon travail, ce que Dieu nous confie dans l'Église, et combien de temps je passe pour prier pour les autres. Ce que je demande, et je le fais devant vous, je demande que Dieu me donne un cœur humble, comme David. Alors, qui était David ? En hébreu, ça veut dire bien-aimé, ça veut dire chérir. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un homme qui vivait dans l'Ancien Testament. C'était le fils d'Isaïe, et Isaïe, il avait 8 garçons. Et lui, c'était le 8e. Et je raconte brièvement, juste pour montrer cette humilité de cœur. Lorsque Samuel, le prophète envoyé par Dieu, doit aller chercher le futur roi que Dieu a choisi, il lui dit « tu vas aller vers Isaïe ». Mais il ne lui a pas dit quel était le fils. Alors il est arrivé vers Isaïe. Isaïe lui a présenté ses fils, les 7 aînés. Et Dieu a montré à Samuel que bah non, ce n'était pas celui-là qu'il avait choisi. Ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas celui-là. Et quand le 7e est passé, eh ben, il n'y avait plus personne. Ce n'est pas Isaïe qui a dit « Ah, mais j'ai mon petit dernier, mon petit loulou, c'est un petit garçon. Bon, ouais. Je ne te l'ai pas présenté parce que bon, comme il est petit, que c'est un enfant, je me suis dit que tu voulais peut-être voir que des hommes. Il est en train de s'occuper de mon troupeau. » Non, ce n'est pas lui qui a dit ça. C'est Samuel qui a dit « Mais tu n'as pas d'autre enfant ?» Et c'est là qu'Isaïe s'est rappelé qu'il avait son fils David auprès de son troupeau et il l'a fait appeler. On aurait toutes les raisons de se sentir un petit peu rejeté, un petit peu mal aimé. Et moi, personnellement, quand je ressens ça, j'ai beaucoup de mal à être gentille, à l'écoute, vouloir faire plaisir. David, lui, il a été appelé par son papa et il est venu. Il n'y a aucun moment dans l'histoire, ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 16, on entend un murmure de David ou un reproche ou « Papa, ça m'a fait trop de peine que tu n'aies même pas pensé à moi ». Rien du tout, parce qu'il avait déjà un cœur humble qui faisait passer l'intérêt de son papa avant le sien. Et puis il a été oint par Samuel, ça veut dire qu'il a été reconnu comme roi du peuple de Dieu. Mais pour autant, il n'est pas devenu roi de suite parce qu'il en avait déjà un autre en place. Et puis le temps passe et puis lui, il est retourné auprès de ses animaux. Et ses frères, ils sont partis au combat avec Saül pour se battre contre un peuple ennemi. Et puis Isaïe appelle David, lui fait « Reviens vite, mon David, reviens vite. Écoute, je voudrais que tu ailles voir comment vont tes frères. Donc je t'ai préparé de quoi manger. Tu vas sur le terrain, tu t'enquières de savoir s'ils vont bien, tu prends des nouvelles et tu reviens me le dire, s'il te plaît. » Et David, qui est un enfant au cœur humble, il obéit de suite. Il arrête tout ce qu'il est en train de faire, il prépare et il part. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, il entend dans l'armée des Philistins, qui est l'armée ennemie, un géant, un Golgoth, qui se permet de mal parler et d'effrayer l'armée de Dieu et de mal parler de Dieu. Et lui, avec son cœur, il supporte pas qu'on parle mal de Dieu. Donc il commence par dire, mais en fait, qui c'est qui se permet de parler comme ça? Et il pose des questions. Et son grand frère, qui l'entend parler, va le voir et commence à lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Tu t'es permis de laisser les animaux de notre père, alors qu'il peut y avoir des loups et des ours, pour venir sur le champ de bataille juste parce que tu es un petit orgueilleux qui a juste envie de voir ce qui se passe et qui veut assouvir sa curiosité? Ah ben bravo! Moi, je me serais dit, oh non, mais c'est pas juste, quoi. David, il dit rien. Il l'écoute, il lui répond pas, et il se tourne vers quelqu'un d'autre pour continuer à poser ses questions. Et toutes ces questions, elles arrivent aux oreilles du roi Saül, qui le fait venir et qui voit que c'est un petit garçon. Et là, lui, il lui dit, mon petit minou, mais t'es trop mignon. T'es mignon, mon chouchou, et ça me touche beaucoup que tu veuilles te battre pour nous. Hein. Mais est-ce que t'as vu le monstre qui est en face de nous? Franchement. Allez, c'est vraiment gentil de ta part, mon petit chou, de vouloir nous aider, mais je pense que c'est pas ta place. Mais David, lui, s'en arrête pas là. Non, il ne fait pas cas de ce qu'on dit de lui, parce qu'il sait qu'il est Dieu. Et il aime tellement Dieu, qu'en fait, pour Dieu, il fait le choix de continuer. Et il ne va pas s'arrêter à tout ça. C'est là que je laisse la place, mon chéri.
J'ai un peu du mal à passer derrière elle. On aurait pu s'arrêter là. Mais du coup, je vais continuer l'histoire. Moi, j'ai juste mis les versets de la suite. Donc, on est dans 1 Samuel 17. Je vais le lire rapidement. Saül fit enfiler sa tenue à David. Donc, Céline nous en a parlé. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Donc j'ai juste mis une petite image, bon c'est une image, voilà, hein. Mais pour imaginer un peu la scène, donc de ce David, comme Céline nous l'a présenté, le petit berger humble qui garde ses moutons, et on a en face le soldat qui est d'une taille incroyable, complètement revêtu d'une armure, alors que David vient lui avec son habit de berger. Et en fait, je trouvais vraiment que David était une image de Jésus, une préfiguration de Jésus. Et la première ressemblance avec Jésus, c'est une ressemblance dans son humilité. Parce que dans la Bible, c'est écrit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et David, là, dans le combat, il n'a pas voulu être quelqu'un d'autre, il n'a pas voulu faire semblant d'être. Il était juste lui, le berger. Il n'a pas été avec des artifices, avec des choses qui ne lui appartenaient pas. Il a juste été avec qui il était, le berger, avec sa petite fronde dont il se servait pour chasser le lion et l'ours. Et de même, Jésus s'est dépouillé à la croix. C'est écrit, alors j'ai mis un diapo 3, je regarde juste. Voilà, il y a le tableau de Salvador Dali. Donc à la croix, l'humilité de Jésus, on voit qu'il est, dans la Bible, c'est écrit qu'il était nu. Là, il est représenté avec un couvre-chef, j'ai envie de dire. Puis les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà ce que firent les soldats. Donc on voit que Jésus, il est présenté nu sur la croix. Donc ça évoque aussi l'humilité, comme David, il s'approchait avec qui il était, ses habits de berger. Et la nudité, ça m'a fait penser aussi à la nudité de Adam et Ève au tout début de la Bible, au commencement, dans la Genèse. Adam et Ève étaient nus. Et la nudité, ça fait penser à l'innocence. Pas l'innocence dans le sens simple d'esprit, mais l'innocence dans le sens littéral du terme, dans le sens ils n'avaient rien fait de mal. C'était des gens qui étaient purs, Adam et Ève. Et ensuite, le péché vient. Et Jésus, en mourant sur la croix nu, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est il restaure, il nous redonne notre innocence et il nous donne à la place de notre nudité ses habits de gloire. Voilà. J'avais cette pensée, donc cette image que David était humble, mais que Jésus, c'était l'image de Jésus. Et donc, dans Apocalypse 7, 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Donc, cette foule, c'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. De toute nation, de toute tribu, ça a été dit tout à l'heure dans une prière, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Voilà, le Seigneur Jésus n'est pas resté nu, mais il a été revêtu de gloire et il désire nous revêtir de gloire. C'était le premier point, c'était l'image de David humble et l'image de Jésus qui était humble. Deuxième point de comparaison, c'était le fait que la victoire qu'ils ont remportée. Donc je lis la suite du texte. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu et toute cette assemblée saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et donc là encore, il y a une image entre David et Jésus. David, c'est un héros qui va libérer tout un peuple de l'oppression de Goliath. Et Céline ne l'a pas dit, mais ce Goliath, ça faisait déjà un mois qu'il narguait un petit peu le peuple, qu'il insultait, qu'il méprisait. Alors, il n'y en a pas un qui va sortir d'entre vous là pour venir se battre contre moi. Vous voyez, il le narguait. Et donc, il y a ce fameux David qui vient et qui sort, et qui, avec une pierre, va terrasser ce géant. Et de même, Jésus libère, pas lui juste un peuple, mais tous les peuples, en roulant une pierre, celle du tombeau. Et ça m'a frappé en fait de me dire que chacun d'eux, avec une seule pierre, ils ont remporté la victoire. Et Jésus, en roulant la pierre du tombeau, il a été libéré de la mort et de l'oppression de la mort, et il a libéré en même temps tous ceux qui croient en lui. Voilà. Donc dans Marc 16, le premier jour de la semaine, les femmes, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient en elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Goliath, qui nous empêchait de vivre, donc le péché hérité de nos pères, a été tué, a été dominé à ce moment-là. Alors je vous rappelle vite fait je fais un retour dans le passé par rapport au péché. Pourquoi est-ce qu'on est tous pécheurs? La Bible nous dit dans Genèse 2,17 que l'homme, Dieu lui dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Donc cette mort, ce n'était pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Ça veut dire que tous les hommes, on hérite de la mort, qu'on soit gentil, méchant, ainsi de suite, peu importe. Il n'y a pas un juste, pas même un seul dans la Bible, c'est écrit. Donc on est tous condamnés sans le savoir en naissant. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cette condamnation. Et dans Romains 6, 23, c'est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Jésus a remporté cette victoire contre notre Goliath, le péché, et il nous donne aujourd'hui l'accès à cette victoire. Par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Goliath, qui nous empêche de vivre, il a plein. Hein. Il y a le péché, comme je l'ai dit, mais il y a aussi des maladies, il y a des oppressions, il peut y avoir des liens, des choses qu'on n'arrive pas à s'empêcher de faire. Tout ça, ce sont des Goliaths qui nous dominent et qui nous empêchent d'être complètement libres, comme ce Goliath qu'on a vu tout à l'heure en image, empêcher le peuple d'Israël d'être libre. Et dans Luc 4, 18, 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà la victoire que le Seigneur Jésus a remportée pour chacun de nous. Et je sentais en préparant ces moments qu'il y avait des Goliaths dans vos vies qui vous dominent. Et notamment un, je sentais que c'était quelque chose de très fort. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait fait, qui cachait un secret inavoué qu'il n'avait dit à personne. Et en fait, ce secret était tellement lourd à porter que en fait, ça l'empêche de vivre. Voilà, je sentais vraiment ça très très fort, qu'il y a un secret caché que tu n'as osé dire à personne et en fait qui t'empêche de vivre. Et c'est comme ce Goliath qui est là et qui dit, mais de toute façon, toi, si tout le monde savait ce que tu as dans le cœur, franchement, tu serais plus bas que terre. Voilà, c'est là le Goliath, c'est ce que j'entendais vraiment. Un Goliath qui est un secret caché et qui empêche la liberté totale. Alors, je vais continuer mon texte et mon image avec, entre David et Jésus. Le troisième point, c'est une préfiguration dans la victoire. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, pardon. La suite du texte. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée dans l'attirant du fourreau, donc l'épée du Philistin. Il l'acheva et lui coupa la tête, voyant que leur héros était mort. Les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et le poursuivirent jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaarim jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin, donc la tête du Philistin, et l'amena à Jérusalem. Il déposa dans sa tente les armes du Philistin. Et j'ai juste retrouvé ce tableau aussi. Donc préfiguration dans l'exposition des ennemis. Ça, je ne sais pas comment j'ai mis ça, mais vous voyez, David, il a pris la tête du Philistin. Quoi. C'était son ennemi, c'était l'homme fort qui dominait. Donc c'est un tableau de Caravage en 1610, c'est vieux. Hein. Mais voilà, il a exposé, vous voyez, la tête, il a ramené, c'était son trophée. Lui, il avait gagné sur cet ennemi. Vous voyez. Et la Bible nous dit aussi que Jésus, il a exposé toutes les puissances, toutes les dominations, tous ceux qui étaient là pour nous dominer. Donc dans Colossiens 2, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je trouve cette phrase, elle est forte. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchisse. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes sur la terre ce matin? Et bien sachez que si vous êtes sur la terre, tout les genoux de tous vos ennemis ont fléchi devant le nom du Seigneur Jésus. Tous les genoux de tous vos ennemis. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un ennemi dans votre tête ou quelque chose qui vous limite? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est peut-être une personne qui a été méchante avec vous et qui vous a enfermé dans un caractère? Mais tous vos ennemis ont plié le genou devant le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a un Goliath qui t'empêche d'être libre? Voilà, c'est ma question ce matin. Sache que Jésus, il a exposé lui aussi, comme je vous l'ai présenté, tous nos ennemis, il les a vaincus. Et tous les ennemis sont obligés de se plier devant le nom de Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Le nom de Jésus est au-dessus de tous nos ennemis. Et enfin, je voulais finir avec ce quatrième point. Là, je n'ai pas ni d'image ni de texte, mais je vais aller assez rapidement. Mais pourtant, c'est un point important. C'est donc l'image entre David et Jésus dans la préfiguration d'une alliance. Et je m'appelle Jonathan. Et le grand ami de David dans la Bible, c'est Jonathan. Et David a fait alliance avec Jonathan. Dans 1 Samuel 18, David avait achevé de parler à Saül, donc juste après le texte que je viens de vous lire. Là, vous avez, on était dans 1 Samuel 17. Donc David remporte la victoire sur ce fameux colosse. Et ensuite, il vient, donc il a ramené chez le roi Saül. Et c'est écrit dans 1 Samuel 18, David avait achevé de parler avec Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Dans 1 Samuel 18, 4, il ôta, donc Jonathan, le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Dans 1 Samuel 23, là je trouve que c'est vraiment très fort, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Donc là, c'est Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi qui est en place, donc c'est un prince. Et il s'adresse là donc, à un berger, à quelque part, mais qui a été choisi par Dieu. Et donc, il lui dit, ce Jonathan, tu règneras sur Israël et moi, je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. C'est la principale erreur de Jonathan, c'est qu'il est parti. Il aurait dû rester avec David. Et dans cette image, Jonathan nous représente, en fin de compte, il représente cette alliance que David, Jésus, veut faire avec chacun de nous. Actuellement, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes en péchant, on s'est séparé de Dieu, et donc on a rejeté Dieu, on s'est autoproclamé roi de la terre, et nous sommes princes et rois de la terre. Et en fait, je trouve beau dans cette image que Jonathan s'adresse à David et dit « Tu règneras sur Israël, et moi je serai au second rang ». Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Qu'on lui dise, ok, je suis le maître de moi-même, mais je désire que tu sois au premier rang. Ce matin, Antoine nous a amené à vraiment élever le nom de Jésus, et c'est un choix personnel. Personne ne peut le faire à votre place, mais de dire, voilà, moi je désire que tu sois le roi de ma vie, que je sois au second rang et que tu sois au premier rang. Et cette alliance, le Seigneur Jésus désire vraiment la faire avec chacun. Il a remporté la victoire, comme j'ai dit, à la croix. Mais cette victoire, en fait, il l'a remportée pour tous les peuples, pour chacun de vous. Et en fait, c'est une alliance qu'il désire faire à chacun, une invitation qu'il désire faire à chacun. Et ce qui est beau, c'est de voir que Dieu, il tient son alliance. Et David, il a tenu son alliance avec ce fameux Jonathan, parce que des années plus tard, alors que David était devenu roi, que Jonathan malheureusement était mort dans un combat, que Saül également était mort. David demande, est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Jonathan à qui je pourrais faire du bien ? Et c'est dans 2 Samuel 9, il découvre que oui, il y a un fils de Jonathan qui reste, qui est encore en vie, qui n'a pas été tué et qui n'a pas été massacré. Et donc David désire lui faire du bien parce qu'il avait fait alliance avec son père. Et donc c'est dans 2 Samuel 9, Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur veut te faire du bien. Il t'appelle par ton nom. Vous voyez là, c'était Méphibosheth, c'est un nom franchement à coucher dehors. Mais il l'appelle Méphibosheth. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais il t'appelle par ton prénom. Je veux te faire du bien et je veux que tu viennes à ma table. Et en fait, des fois, en étant nous-mêmes les princes, en dirigeant nous-mêmes notre vie, on a pris plein de mauvaises décisions, on s'est éloigné, on a été volé, parce que dans la Bible, le diable est présenté comme celui qui vient pour égorger, dévorer et détruire. Et en fait, quand on est loin de Dieu, malheureusement, on est proche du diable. C'est pas un choix, en fait. On a l'impression de choisir, mais en fait, on ne choisit pas vraiment. Et donc, le diable, lui, est là pour dévorer, égorger, détruire. Voilà, c'est pas pour du tout nous faire du bien, d'accord ? Mais Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Et c'est vraiment une invitation, une alliance que le Seigneur désire faire ce matin avec chacun de nous. Il désire te faire du bien, te sortir de ta misère. Il désire faire alliance avec toi. La Bible dit qu'il revient nous chercher pour nous inviter à sa table au repas des noces. Ça aussi, donc encore une image avec David. David a invité Méphibosheth à sa table et Jésus désire vous inviter à sa table. Et je vais m'arrêter là, mais pour revenir sur le baptême de notre cher Samuel, en confessant là ce matin devant chacun de vous son désir de suivre Jésus, eh ben, il nous présente le fait qu'il a fait cette alliance avec Jésus, qu'il a désiré que Jésus soit son souverain, que Jésus soit son roi. Et cette alliance, en fait, le Seigneur Jésus vous appelle chacun à la faire, nous appelle chacun à la faire. Et j'aimerais vraiment simplement donc, rappeler rapidement les quatre points que j'ai évoqués. Donc, l'image de l'humilité que Jésus a, dont Jésus s'est revêtu, donc la nudité pour que nous soyons couverts de gloire, l'image de la victoire qu'il a remportée à la croix pour chacun de nous, l'image du fait qu'il a exposé notre ennemi. Voilà, vous voyez, la tête de Goliath a été exposée, Jésus a exposé notre ennemi en le clouant à la croix, et l'alliance qu'il souhaite faire avec chacun de vous. Alors on va prendre un temps maintenant pour prier pour Samuel. Peut-être tous ceux qui l'ont suivi, je pense à Alexandre, je pense à Fabrice, et peut-être d'autres, s'ils le souhaitent, s'approcher. Les responsables de l'Église, bien sûr, tous ceux qui le souhaitent. Mais je voudrais aussi vous ouvrir la possibilité à chacun, donc là on va prier pour Samuel, mais chacun d'entre vous, vous êtes invité, si vous le souhaitez, après la prière pour Samuel, si vous désirez vous aussi faire alliance avec Dieu, si vous désirez qu'on prie pour vous, parce que je suis certain qu'aujourd'hui, Dieu veut guérir des personnes qui sont malades. Je le sens, j'ai senti ce matin en préparant ces moments que Dieu veut faire des guérisons. Il y a des gens qui sont malades, que Dieu veut guérir. Il y a des gens qui sont aussi opprimés, ça veut dire qu'il y a une oppression, quelque chose qui est sur votre vie, comme une ombre noire qui vous force à faire des choses que vous ne voulez pas ou qui vous suit. Le Seigneur veut vous en libérer. Et encore une fois, cette personne que je sentais qui avait comme un secret caché, inavoué, et qui est comme cette ombre noire justement qui vous empêche d'être libre, le Seigneur encore veut vous en libérer. Donc on va prendre un temps pour prier pour Samuel, pour bénir Samuel, mais sentez-vous libre après, ou même en même temps, il n'y a pas de souci de venir, et ne restez pas en tout cas en partant sans avoir remporté votre victoire contre votre Goliath, parce que le Seigneur Jésus a remporté la victoire pour vous.